Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 11. Le premier sujet de notre étude, ce sera le brisement, être brisé. Qu'est-ce que le réveil ? Eh bien, c'est simplement la vie du Seigneur Jésus répandue dans le cœur des hommes. Christ est toujours vainqueur. Au ciel retentissent continuellement des accents de louange pour sa victoire. Quelles que soient nos défaites et notre stérilité, lui, le Seigneur, n'est jamais vaincu. Sa puissance est illimitée. Tout ce que nous avons à faire de notre côté, eh bien, c'est de mettre au point nos relations avec lui afin de démontrer sa puissance dans notre cœur, notre vie, notre service. Ainsi, sa vie victorieuse nous remplira et débordera sur les autres. Voilà le réveil dans son essence. Cependant, si nous voulons connaître ses justes rapports avec lui, il faut tout d'abord que notre volonté propre soit brisée et soumise à la sienne. Le brisement, c'est le commencement du réveil. C'est un chemin douloureux, humiliant, mais c'est le seul chemin. Non plus moi, mais Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Le Seigneur Jésus-Christ ne saurait vivre en nous pleinement, ni se révéler par nous, tant que notre moi orgueilleux n'est pas brisé. Cela signifie simplement que ce moi dur et intraitable, qui se justifie, défend ses droits et cherche sa propre gloire, se soumet enfin à la volonté de Dieu. Oui, admette ses fautes et abandonne sa volonté propre et ses droits et renonce à sa propre gloire. Et ceci afin que Jésus-Christ le possède et soit tout en lui. En d'autres termes, être brisé, c'est mourir à soi-même sous toutes ses formes. Si nous considérons honnêtement notre vie chrétienne, nous verrons combien ce moi occupe de place en nous. C'est si souvent lui qui s'efforce de vivre cette vie chrétienne. Le terme même de s'efforcer indique que le moi est à la base de cet effort. Oui, c'est bien souvent le moi qui veut servir Christ. Et c'est toujours lui qui s'irrite, éprouve de l'envie, de la rancune, critique et s'inquiète. C'est encore lui qui est dur et intolérant à l'égard des autres, satisfait de lui-même ou renfermé. Oui, vraiment, nous avons besoin d'être brisés. Dieu ne peut guère agir en nous tant que le moi occupe le poste commandement, car tous les fruits de l'esprit énumérés dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, et dont Dieu désire nous remplir, sont l'opposé de l'esprit dur et insoumis qui habite en nous et ne peuvent se manifester que si ce dernier est crucifié. Ce brisement est à la fois l'œuvre de Dieu et la nôtre. En effet, Dieu exerce comme une pression sur nous, mais c'est à nous de l'accepter ou de la refouler. Si, dans notre recherche de communion avec Dieu, nous sommes vraiment prêts à nous laisser convaincre par sa lumière, il démasquera en nous le moi dur et orgueilleux qui le fait tant souffrir. Nous pourrons alors soit raidir le coup ou refuser de nous repentir, soit nous courber et dire « Oui, Seigneur ». Le brisement quotidien, c'est simplement accepter dans l'humilité tout ce dont Dieu veut nous convaincre. Cela peut nous coûter cher si nous considérons tous les droits et intérêts égoïstes que nous devons abandonner, et les confessions et les restitutions éventuelles à faire. Il n'y a que la croix qui puisse produire en nous ce brisement. Jésus-Christ a accepté d'être brisé pour nous. Il n'y a donc plus de raison pour que nous ne le soyons pas à notre tour. Jésus-Christ est celui qui, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, serviteur de Dieu et des hommes. Nous le voyons renonçant volontairement à ses droits, à la possession d'un foyer ou de n'importe quel bien, prêt à se laisser injurier sans répondre, à se laisser piétiner sans se défendre. Mais par-dessus tout, nous le voyons brisé, tandis qu'il gravit humblement le calvaire pour y devenir notre bouc émissaire, en portant nos péchés, mon péché, en son corps sur le bois. Et maintenant, il nous invite à prendre notre place véritable, à devenir humble pour lui et avec lui. Tout le sermon sur la montagne, avec ses préceptes de non-vengeance, d'amour pour nos ennemis et de charité désintéressée, nous enseigne que c'est là notre position véritable. Seule la vision de l'amour qui a accepté d'être brisé à notre place peut nous conduire jusque-là. Oui, voyez-vous, essayons de dire ensemble ces quelques mots merveilleux. Viens, ô Seigneur, et brise-moi, que je me courbe et meure comme toi, lorsque à Golgotha, tu baisses la tête pour moi. Cependant, on ne meurt pas à soi-même une fois pour toutes. Le brisement initial est constamment suivi de nouveaux brisements, car c'est seulement ainsi que le Seigneur Jésus-Christ peut se révéler constamment à travers nous, selon 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Tout au long de la journée, le choix se présentera à nous de mille manières. Cela signifiera le renoncement à nos projets, à nos plaisirs et à la libre disposition de notre temps et de notre argent. Nous recherchons alors constamment le bien de ceux qui nous entourent, car ce que nous donnons à nos frères et sœurs est le surcritère de ce que nous donnons à notre Seigneur. car chaque humiliation, chaque vexation que nous sommes appelés à endurer est un moyen dont Dieu se sert pour nous briser, afin de creuser plus profondément le canal par lequel s'écoule la vie de Christ. De fait, la seule vie susceptible de plaire à Dieu est de remporter toujours la victoire. C'est sa vie, jamais la nôtre, quels que soient nos efforts. De même que notre vie centrée sur nous-mêmes est exactement à l'opposé, carrément, de celle de Christ, de même, nous ne pourrons être remplis de la sienne qu'à la seule condition d'accepter que Dieu fasse constamment mourir la nôtre. C'est ici qu'intervient notre choix. Chers amis, notre deuxième sujet, c'est la coupe qui déborde. Le brisement n'est cependant que le début du réveil. Le réveil lui-même, c'est d'être rempli du Saint-Esprit au point de déborder. Et c'est aussi la vie victorieuse. Si l'on nous demandait maintenant « Êtes-vous rempli du Saint-Esprit ?» Que répondrions-nous ? Le réveil, c'est de pouvoir répondre oui à cette question à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a aucun orgueil à l'affirmer, car c'est entièrement et uniquement l'œuvre de Dieu, et c'est une pure grâce. Tout ce que nous avons à faire est d'offrir à Dieu un cœur brisé pour qu'il puisse le remplir et le maintenir dans la plénitude. Murray a dit avec raison, comme l'eau recherche et remplit toujours les lieux les plus bas, ainsi Dieu nous emplit de sa gloire et de sa puissance dès l'instant où il nous trouve humbles et vides. Une image suggestive est celle de la coupe, représentant carrément notre cœur, que nous tendons à Jésus-Christ pour qu'il la remplisse de l'eau vive. Oui, Jésus-Christ est représenté tenant une cruche d'or. Tandis qu'il passe, il regarde notre coupe, si elle est propre. Il l'emplit, donc il la remplit, jusqu'à la faire déborder. Et comme il passe toujours, elle peut toujours déborder. C'est ce que veut dire David dans son psaume 23. Ma coupe déborde. Le réveil, c'est quand toi et moi, nous nous laissons remplir de cette eau vive jusqu'à déborder pour nous-mêmes, oui, pour nous-mêmes et pour les autres, et cela avec une paix constante dans le cœur. On s'imagine parfois que mourir à soi-même rend malheureux. Au contraire, c'est le refus de mourir à soi-même qui rend misérable. Plus nous avancerons dans la mort avec Christ, plus nous connaîtrons sa vie de résurrection et plus notre paix et notre joie seront réelles. Sa vie en nous débordera sur notre prochain avec une profonde nostalgie de voir les âmes perdues venir à Christ et l'ardent désir que nos frères et sœurs chrétiens reçoivent, c'est-à-dire une pleine bénédiction. Il n'y a qu'une chose qui empêche le Seigneur Jésus-Christ de remplir notre coupe tandis qu'il passe. C'est le péché sous une de ses multiples formes. Il ne saurait remplir des coupes impures. Tout ce qui procède du moi, si infime que cela soit, est tout simplement le péché. La pitié de soi-même dans les épreuves et les difficultés, la recherche de ses intérêts propres dans les affaires ou le service pour Dieu, le laisser aller dans les loisirs, la sensibilité, la susceptibilité, le ressentiment, la défense de ses droits lorsqu'on est offensé ou accusé, l'égocentrisme, le repliement sur soi-même, les soucis, les craintes, tout cela provient du moi. Oui, tout cela est par conséquent péché et souillure qui souille carrément notre coupe. Cependant, chers amis, tous ces péchés se trouvait dans la coupe que le Seigneur à Gethsémané hésita un moment à vider, mais qu'il a bu jusqu'à la lie au calvaire. Si nous lui permettons de nous révéler le contenu de notre coupe et que nous le lui abandonnions, il le purifiera dans son sang précieux qui coule encore aujourd'hui pour le péché. Il ne s'agit pas là simplement d'une purification du péché, mais encore de la souillure et de la culpabilité qu'il entraîne, de sorte qu'il n'en reste plus trace en nous. Et tandis qu'il purifie notre coupe, il la remplit du Saint-Esprit. Nous pouvons ainsi expérimenter chaque jour à nouveau l'efficacité de ce sang précieux. Supposons maintenant que nous ayons laissé le Seigneur Jésus-Christ purifier notre coupe et la remplir, et que tout à coup, nous cédions à une impulsion, une pensée d'envie ou de colère. Qu'arrive-t-il alors? Notre coupe à nouveau souillée cesse aussitôt de déborder. Et si nous restons vaincus, elle ne déborde plus jamais. Pour connaître un réveil permanent, nous devons apprendre à garder notre coupe pure. Oui, ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un réveil cesse et soit désormais connu sous le nom de réveil de telle ou telle époque. Si tel est le cas, cela est dû uniquement au péché. Ces petits péchés que le diable verse dans notre coupe. Oui, et en revenant au calvaire et en expérimentant à nouveau la puissance du sang de Jésus-Christ pour nous purifier instant après instant, on peut dire donc de notre péché. Hein, il faut bien le dire. Je répète, en revenant au calvaire et en expérimentant à nouveau la puissance du sang de Jésus-Christ pour nous purifier carrément, instant après instant de notre péché, dès que l'Esprit Saint de Christ, vous avez bien compris, travaille en nous, eh bien, nous apprenons le secret de la sainteté et de la plénitude d'une coupe constamment purifiée et constamment débordante. Dès que vous avez conscience d'être effleuré par des sentiments d'envie, d'irritabilité ou de quoi que ce soit d'autre, abandonnez-les à Jésus-Christ en lui demandant de les effacer par la puissance de son sang précieux. Et vous verrez alors que votre réaction charnelle disparaîtra. La paix reviendra et la coupe à nouveau débordera. Plus vous rechercherez cette purification, moins vous aurez de réaction du moi. Mais la purification n'est possible que si nous avons été préalablement brisés par Dieu sur le point en question. Supposons que nous soyons irrités par le caractère d'une certaine personne. Il ne suffit pas simplement d'apporter notre irritation à la croix, mais nous devons intercéder pour cette personne pour que le Seigneur la bénisse et lui donne la paix intérieure. Alors, nous pourrons apporter à Jésus-Christ nos réactions d'irritation, sachant que son sang précieux, purifiera ce péché. Lorsque nous avons été purifiés d'un péché, ne continuons pas à nous en lamenter. Ne soyons pas préoccupés de nous-mêmes. Regardons plutôt à notre Sauveur victorieux et bénissons-le de ce que cette victoire est toujours effective. Il existe dans la parole de Dieu un guide absolument sûr pour régler notre marche avec Jésus-Christ et signaler en nous l'apparition du péché. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Tout ce qui trouble en nous la paix de Dieu est tout simplement le péché, même si cela nous paraît insignifiant. Cette paix doit régner dans nos cœurs. Selon une traduction plus littérale, elle est un arbitre dans un match de football si l'arbitre siffle. Eh bien, le jeu doit s'arrêter. Une faute a donc été commise. Et lorsque nous perdons notre paix, c'est que l'arbitre de Dieu, l'Esprit Saint, a poussé son coup de sifflet en nous. Arrêtons-nous donc sur le champ et demandons à Dieu de nous montrer ce qui ne va pas. Confessons-lui le péché qui va nous montrer, il va nous le montrer, et le sang de Jésus-Christ va nous rendre la paix, et nous pourrons alors reprendre la route avec une coupe qui déborde. Si cependant Dieu ne nous rend pas sa paix, c'est le signe que nous ne sommes réellement pas tellement brisés. Voyez-vous, peut-être devons-nous demander pardon à quelqu'un d'autre, et pas seulement au Seigneur. Ou peut-être persistons-nous à croire que c'est la faute des autres. Mais si nous avons perdu la paix, cela suffit pour nous indiquer clairement qui est coupable. En effet, le péché d'autrui ne saurait nous faire perdre notre paix. Dieu veut nous montrer la culpabilité de notre réaction, et c'est seulement lorsque nous aurons accepté d'être brisés sur ce point particulier que sa paix nous sera rendue. Quelle chose simple et profonde d'être sous le contrôle de la paix de Dieu, qui n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. Telle manière d'agir égoïste, qui ne nous troublait pas auparavant, nous est désormais, chers amis, révélée, et nous ne saurions la conserver sans que l'arbitre donne l'alarme. Si nous sommes prêts à nous laisser gouverner par la paix de Dieu, la mauvaise humeur, l'autoritarisme, la négligence, jusque dans leurs moindres manifestations, nous sont révélés comme des péchés. Plusieurs fois par jour, et pour les plus petites choses, nous devrons, croyez-moi, avoir recours au sang de Christ, et nous connaîtrons comme jamais auparavant la voie du brisement au travers de laquelle Jésus-Christ pourra se manifester dans toute sa merveilleuse grâce. Cependant, plusieurs d'entre nous ont négligé si souvent les avertissements de l'arbitre qu'ils ne les perçoivent plus. Et vous savez que l'arbitre, c'est l'Esprit Saint. Les jours se suivent sans que nous trouvions l'occasion d'être brisés, et sans que nous ressentions le besoin d'être purifiés. Et cet état est généralement beaucoup pire que nous le pouvons croire. Il faut désirer ardemment de retrouver la communion avec Dieu avant d'accepter de crier à lui pour qu'il nous montre où nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Pour commencer, il nous montrera une chose seulement à la fois, une à la fois, mais notre obéissance et notre brisement sur ce point constitueront le premier pas vers le réveil en nous. Oui, certains se demandent s'il est juste d'appeler péché des choses telles que le désir de plaire, le repliement sur soi-même ou la crainte. Appelez-les plutôt infirmité et faiblesse, car les appeler péché, c'est se placer sous un joug. Chers amis, il est bien entendu pas faux qu'une femme cherche à plaire un peu, quand même. Dieu ne nous demande pas d'être sales, négligés et délabrés. Par contre, attention, tout dépend des motifs de vouloir plaire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous le montrer et nous le révéler. Chers amis, notre troisième et dernier sujet, c'est le chemin de la communion. Lorsque l'homme tomba dans le péché et se choisit lui-même plutôt que Dieu, comme centre, par exemple, de sa vie, eh bien, le résultat fut non seulement de le séparer de la communion de Dieu, mais encore d'interrompre cette communion avec son prochain. La première révolte de l'homme contre Dieu, rapportée au chapitre 3 de la Genèse, a été bientôt suivie de sa première révolte contre l'homme, et ce fut le meurtre d'Abel par Caïn. La chute, c'est tout simplement le fait que chacun suit sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Donc, si je préfère ma propre voie à celle de Dieu, il est évident que je la préfère aussi à celle de mon prochain. On n'affirme pas son indépendance vis-à-vis de Dieu sans l'affirmer du même coup vis-à-vis des hommes. Et un monde où chacun suit sa propre voie ne peut être que rempli de tensions, de barrières, de suspicions, de malentendus et de conflits de toutes sortes. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ au calvaire n'a pas consisté seulement à rétablir la communion entre l'homme et Dieu, mais encore entre l'homme et ses semblables, l'un ne saurait aller sans l'autre. Plus les rayons d'une roue se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres. S'il n'y a pas de communion vivante et réelle avec tel ou tel frère et sœur, c'est la preuve que cette communion n'existe pas non plus entre nous et Dieu. La première épître de Saint Jean, sur laquelle le réveil répand une vie de lumière, on peut dire une vive lumière, mesure la profondeur et la réalité de la communion de l'homme avec Dieu à la profondeur et la réalité de sa communion avec ses frères et sœurs. Notez la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 9, ainsi que le chapitre 3, verset 14 et 15, et encore le chapitre 4, verset 20. Tout ce qui constitue une barrière entre nous, si insignifiant que cela puisse paraître, en constitue du même coup une barrière entre Dieu et nous. Et là où ces barrières ne sont pas immédiatement renversées, elles se transforment bientôt en murs si épais que nous nous trouvons entièrement séparés de la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Si la vie nouvelle me remplit vraiment, elle me permettra de réaliser l'unité avec Dieu en même temps qu'avec mes frères et sœurs. Alors, plus rien ne me séparera d'eux. » Chers amis, quelle est la base de cette communion réelle avec Dieu et avec nos frères et sœurs? La première épître de Jean, au chapitre 1, verset 7, nous donne la réponse à cette question. Il est dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. La lumière éclaire et révèle, tandis que les ténèbres cachent. L'œuvre de la lumière consiste à nous révéler ce que nous sommes. Tout ce qui est manifesté est lumière. Éphésiens, chapitre 5, verset 13. Mais tout ce que nous faisons, ou nous disons, ce que nous taisons même, et ceci dans le but de cacher ce que nous sommes réellement, ressort des ténèbres. Le premier résultat du péché en nous est toujours de nous faire cacher ce que nous sommes véritablement. Le péché induisit nos premiers parents à se cacher derrière les arbres du jardin, et il n'a pas cessé jusqu'ici d'avoir le même effet. Le péché nous conduit toujours à l'irréalité, à la comédie, à la duplicité, à soigner les apparences, à nous excuser et à mettre la faute sur les autres. Et cela, autant par le silence qu'en disant ou faisant quoi que ce soit. C'est là ce que le passage précédent appelle tout simplement la marche dans les ténèbres. Notez encore une fois Éphésiens chapitre 5, verset 8. Pour certains, le péché en question n'est autre que la recherche exagérée de soi-même. Quel contraste avec le verset 5 du même chapitre. Le verset 5 du même chapitre, c'est bien évidemment Éphésiens 5. Nous avons eu avant le verset 8. Maintenant, nous parlons du verset 5, qui nous dit que Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il est carrément le Tout-Puissant, qui révèle tout, et notamment l'homme tel qu'il est, moi tel que je suis. Il n'y a point en lui de ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y a en Dieu absolument rien qui ressemble à la moindre parcelle des ténèbres ou à notre désir de dissimulation. La seule manière de réaliser la communion véritable avec Dieu et les hommes, c'est de vivre au grand jour, avec tous les deux. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. La marche dans les ténèbres est le contraire de la marche dans la lumière. Spurgeon a défini cette dernière comme suit. Être prêt à connaître et à être connu. Je répète, Spurgeon nous dit et définit tout cela comme suit. Nous devons être prêts à connaître et à être connus. En ce qui concerne la communion avec Dieu, eh bien cela signifie que nous sommes prêts à reconnaître toute la vérité sur nous-mêmes. Oui, à être convaincus de péché et à courber la tête à la moindre suggestion de notre conscience et à appeler péché tout ce que Dieu nous signale comme tel. Enfin, à ne rien cacher ni de nous excuser ou chercher des excuses, car une telle marche dans la lumière ne peut que nous rendre toujours plus sensibles au péché en nous, et nous le reconnaîtrons, nous allons le reconnaître là où nous l'ignorions, où nous avons totalement ignoré tout cela auparavant. Et cela, chers amis, pourrait nous faire reculer. Et nous pourrions être tentés, malheureusement, de nous protéger d'une pareille clarté si le verset cité ne se terminait pas par ces paroles. Écoutez bien. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de tout péché. Nous pouvons confesser et mettre sous le sang tout ce que la lumière de Dieu nous révèle comme péché, alors ce dernier est effacé devant Dieu et dans notre cœur. Son sang précieux a le pouvoir de nous rendre plus immaculés que la neige. Et c'est ainsi que, demeurant continuellement dans la lumière et étant continuellement purifiés par le sang précieux, nous sommes en communion avec Dieu. La communion promise ici n'est pas seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Et cela suppose que nous marchions dans la lumière avec notre frère, notre sœur. Nous ne saurions en aucun cas être au grand jour avec Dieu et dans les ténèbres avec notre prochain. Nous devons donc être prêts non seulement à connaître, mais à être connus des hommes comme de Dieu et à accepter qu'il nous éclaire sur nous-mêmes et à agir de même envers eux dans l'amour. Alors, nous ne cacherons plus notre véritable visage à nos frères et sœurs avec lesquels nous vivons, et cela par toutes sortes d'apparences plus ou moins authentiques, pas plus que nous ne continuerons à nous excuser et à nous blanchir. Nous serons donc honnêtes. Nous renoncerons à notre propre manière de considérer notre vie spirituelle, ainsi qu'à notre orgueil et à notre bonne réputation, afin de devenir vraiment transparent avec nos frères et sœurs en Christ. Cela signifie également que nous ne garderons plus dans notre cœur aucun sentiment malveillant à l'égard de qui que ce soit, mais que nous en chercherons tout d'abord la délivrance auprès de Dieu, et puis nous allons le confesser, nous confesserons et mettrons les choses au point avec la personne en question. Nous réaliserons ainsi une communion toute nouvelle, les unes avec les autres, et nous, on peut dire, nous aimerons, pas moins, mais nous allons aimer infiniment plus. Marcher dans la lumière, c'est donc simplement marcher avec Jésus-Christ. Cela ne suppose pas, par conséquent, aucune contrainte. Il ne doit pas y avoir de contrainte là-dedans. Et cela signifie pas non plus qu'à tout le monde, nous devons ouvrir tout notre cœur. Ce qui compte avant tout, c'est notre attitude. Sommes-nous, chers amis, prêts à être entièrement transparents avec nos frères et sœurs et à l'être en parole lorsque Dieu nous le montrera? C'est là la véritable marche dans la lumière. Et cela sera parfois humiliant, mais combien efficace pour la réalité de notre vie spirituelle et la connaissance de nous-mêmes. Nous sommes tellement habitués à l'idée que Dieu nous connaît, qu'il sait toutes choses, que nous ne réagissons plus et que pour finir, nous ne nous connaissons plus nous-mêmes. Mais qu'un homme, une femme, reconnaisse l'entière vérité sur lui-même, sur elle-même, sous la direction du Saint-Esprit, alors il se verra lui-même, elle-même, et ses péchés, dans une lumière toute nouvelle. Il ou elle comprendra comme jamais auparavant, où le sang rédempteur de Christ doit être appliqué progressivement dans sa vie. Oui, c'est là la raison pour laquelle l'apôtre Jacques nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. D'après la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 7, le but de la marche dans la lumière est la communion mutuelle. Et combien elle est réelle, cette communion, lorsque nous marchons ainsi. De toute évidence, l'amour jaillira entre nous si chacun de nous accepte d'être connu tel qu'il est, tel que nous sommes, pécheurs repentants aux pieds de Jésus-Christ. Lorsque les barrières sont tombées et les masques arrachés, Jésus-Christ peut enfin nous unir et faire que nous soyons un cœur et une âme. Nous savons que si une personne à quoi que ce soit contre nous, cela sera immédiatement soumis à la lumière. Oui, soit dans le brisement et la confession, là où il y a eu des torts ou des manques d'amour, ou soit dans des remontrances pleines de charité, lorsqu'il s'agit de quelque chose que nous avons besoin de reconnaître. N'oublions pas que la marche dans la lumière est avant tout une marche avec Jésus-Christ. C'est tout d'abord à lui que nous avons affaire pour être purifiés et obtenir la victoire. Et si ensuite Dieu nous conduit à ouvrir notre cœur à nos frères et sœurs, c'est alors bien plus un témoignage qu'une confession que nous leur apportons. Et nous pouvons ainsi louer Dieu ensemble. Chers amis, Jésus-Christ veut que nous commencions aujourd'hui à marcher dans la lumière d'une manière nouvelle. Joignez-vous pour cela à un autre, une autre, à votre ami, à la personne avec laquelle vous vivez, votre femme, votre mari, et laissez tomber votre masque. Sans aucun doute, Dieu vous a montré un point précis sur lequel vous devez être honnête avec eux. Commencez par là. Oui, travaillez à deux, là où le Seigneur vous a placé. D'autres seront alors brisés au pied de la croix et ajoutés comme Dieu le donnera. Réunissez-vous dans un esprit de communion véritable pour partager vos expériences spirituelles avec une parfaite franchise. Priez pour d'autres et puis allez, toujours en équipe, porter plus loin votre témoignage. Ainsi Dieu pourra faire de grandes choses et ceux qu'il aura sauvés et bénis pourront à leur tour vivre et travailler en équipe comme une boule de billard qui met en route d'autres en mouvement. Et pour finir, voyez-vous, tout le quartier et même le pays sera inondé de la vie nouvelle qui procède du Seigneur Jésus ressuscité. Gloire à Dieu. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner quelques mots d'encouragement. Et voici ces mots que Dieu m'a mis dans le cœur de vous donner. Dieu t'a fait un grand cadeau. Il t'a donné des yeux qui ne voient pas seulement les choses visibles. Il nous a donné les yeux de la foi qui peuvent voir la réalité intime et cachée des choses. Et c'est ce monde invisible qui détermine le monde visible. Celui qui sait regarder de ce regard-là reconnaîtra le mystère de l'amour de Dieu dans sa vie et dans celle de l'humanité. il n'apercevra pas seulement l'adversité, mais comprendra que l'épreuve produit la gloire. Il ne verra pas seulement le péché, mais la victoire de Jésus-Christ qui veut se réaliser dans notre vie. Au-delà des complexités inextricables de la vie, il discernera le plan de Dieu merveilleux et infiniment sage qui est caché. Dans les ténèbres répandues à profusion sur la terre, il assistera à l'irruption du règne de Jésus-Christ déjà ici-bas. Ainsi, ouvre tes yeux sur l'invisible et sur les grandes promesses de Dieu, et ta vie en sera totalement transformée. Chers amis, prions maintenant ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, ta bonté ne se lasse point de nous protéger, de nous bénir. Tes bienfaits surpassent notre faible intelligence. Les profondeurs de ta miséricorde sont insondables. Puissions-nous par ton secours ne pas mépriser tant de grâces précieuses, ne point fermer nos cœurs à tes appels, mais répondre avec promptitude et joie aux paroles de vérité que tu nous adresses. Ô Seigneur, tu sais combien ces cœurs renferment l'incrédulité de misère et de passion. Tu sais que nous sommes d'argile et tu as pitié, compassion carrément de nous. Tu ne daignes point de t'abaisser jusqu'à tes faibles créatures et dès que nous te cherchons, tu te fais trouver à nous. Tu es tout puissant pour nous combler de toute grâce. Et tu nous as donné en ton Fils bien-aimé la vie éternelle. Confions-nous donc en lui, en tout temps, et qu'en lui seul soit notre espérance. Que le sentiment de notre misère nous attache à ce divin Sauveur. Que nous sentions la force irrésistible de son pouvoir dans les âmes et qu'ainsi nous puissions trouver la paix. Oui, bénis-nous pendant cette journée. Regarde-nous avec compassion afin de nous préserver de tous les maux auxquels nous pouvons être exposés. Sois au milieu de nous et protège nos amis et nos familles. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais, car c'est vraiment une réalité, que Dieu vous aime et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et vous savez que vous pouvez les écouter autant que vous voulez. Personnellement, je dois des fois relire certains passages des Saintes Écritures jusqu'à trois fois, j'en ai même honte de vous le confesser, pour que je le comprends vraiment dans son essence et que je puisse ensuite prier, méditer sur ces passages qui sont pas toujours simples. Surtout aujourd'hui, où avec tous les gadgets électroniques, vous n'avez même plus le temps de lire cette sainte parole. Quelle tristesse, quel dommage. Je pourrais verser des larmes là-dessus, mais ça ne nous avancerait pas plus loin. Nous pouvons seulement prier les uns pour les autres, avec tout notre cœur, pour que l'Esprit Saint puisse se manifester encore dans ces temps difficiles. À bientôt, chers amis, et merci.